Les podcasts du Collège de France.
Excusez-moi de nouveau pour ces quelques minutes de retard. Donc, on a une petite baisse d'audience aujourd'hui. Je pense qu'il s'explique par le fait qu'il y a une conférence à Orsay sur le magnétisme frustré. Et donc, il a bien fallu choisir entre le cours et la conférence. Aujourd'hui, on va parler d'oxyde. Alors, je voudrais de nouveau prévenir les experts que c'est vraiment une introduction. Donc, peut-être que ceux qui. Enfin, je suis sûr que ceux qui connaissent très bien la physique des oxydes ou la physico-chimie des oxydes vont s'ennuyer. Et peut-être que ceux qui ne connaissent pas du tout la physique des oxydes vont trouver qu'il y a un petit peu trop de structures électroniques aujourd'hui. Mais enfin, bon, c'est un compromis, comme d'habitude. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que le séminaire d'aujourd'hui sera fait par Véronique Brouet, donc, qui est au laboratoire de physique des solides d'Orsay. Et je voudrais la remercier particulièrement parce qu'elle a accepté mon invitation à faire ce séminaire un petit peu à la dernière minute, dans la mesure où j'ai mis longtemps à combler ce 2 juin. Et je voudrais aussi la remercier parce que je pense que son séminaire sera très très complémentaire, en particulier au cours de la dernière fois, qui commençait à parler de photoémission. Et vous verrez que la photoémission, c'est quelque chose dont on va parler de manière plus ou moins constante jusqu'à la fin de ce cycle de cours, mais aussi également l'année prochaine quand on parlera de cuprate. Bien. Alors, donc oxyde et surtout oxyde de métaux de transition. Donc pourquoi parler de ces matériaux? Alors j'ai essayé de mettre sur ce premier transparent un certain nombre de raisons. Donc, les oxydes de métaux de transition, TMOs, ça veut dire Transition Metal Oxides, dans le reste de ces transparents, les oxydes de métaux de transition font des grandes choses. Alors, elles font des grandes choses dans le sens où ils font des choses assez surprenantes, d'une part, et d'autre part, l'amplitude des effets est grande. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, c'est un petit peu la page de publicité pour les oxydes de métaux de transition, si vous voulez, mais je crois que c'est vrai que les oxydes de métaux de transition font des grandes choses. Et certaines de ces grandes choses pourraient même être utiles à quelque chose, figurez-vous. Par exemple, on peut avoir des supraconducteurs, on peut avoir des thermoélectriques, et tout ça pourrait un jour trouver des applications. Dans une certaine mesure, il y en a déjà, mais pourrait en trouver de plus grandes encore. En particulier, je crois qu'il faut placer d'assez grands espoirs dans les progrès, il y a plein de places devant, dans les progrès qui sont liés à l'élaboration des matériaux, et en particulier, il y a toute une série de travaux actuellement sur l'élaboration de multicouches d'oxyde, couche par couche, soit en utilisant des méthodes de type PVD, soit d'épitaxie par jet moléculaire. Il y avait un séminaire de Jean-Marc Triscone, qui est un des pionniers du domaine à Orsay, hier. Bon, au-delà de ces grandes choses et de ces applications potentielles, il y a aussi le fait que la physique des oxydes de métaux de transition soulève des questions tout à fait fondamentales, pour lesquelles on a encore, il faut bien le dire, malgré plusieurs décennies de recherche, une boîte à outils théorique encore très très incomplète. Et donc il y a beaucoup de questions. Soit des questions, je dirais, semi-quantitatives, mais qui sont importantes pour comprendre le comportement des matériaux, soit vraiment des questions qualitatives sur la physique de basse énergie, en particulier, évidemment, dans les cuprates supraconducteurs, qui restent encore sans réponse. Et la dernière chose, c'est que, personnellement, ça c'est une opinion personnelle, je trouve que les structures et les fonctionnalités de ces propriétés de ces matériaux ont une certaine forme de beauté esthétique, malgré leur apparente complexité, qui fait que c'est un domaine assez fascinant. Donc voilà un petit peu ce que je voudrais vous raconter aujourd'hui, et comme d'habitude, je n'arriverai sans doute pas au bout. Quelques-unes de ces grandes choses que font les oxydes, donc ça c'est un peu le côté publicitaire. Ensuite, je voudrais vous faire rencontrer quelques-unes de ces structures, et en particulier, on va surtout parler de la structure perovskite, qui va revenir souvent dans la suite de ces cours. Je voudrais vous faire sentir que le phénomène de Mott, c'est-à-dire le blocage des degrés de liberté de translation par l'interaction répulsive qu'on a déjà rencontrée dans les cours précédents, à la fois dans le cas fermionique et bosonique, dans ce domaine, est vraiment d'une importance clé. Il contrôle absolument toute la physique de ces systèmes. Et puis ensuite, je voudrais entrer un petit peu plus dans les détails, vous parler d'orbital atomique et de théorie du champ cristallin, puis quelques notions sur la structure électronique des oxydes, etc. Alors d'abord, on parle d'oxyde de métaux de transition. Où sont les métaux de transition dans, dans le tableau périodique? Donc ça, c'est quand même très très important de le savoir. Donc les métaux de transition, ben, il y en a plusieurs rangées, et on va surtout parler aujourd'hui, mais dans le dernier cours, je parlerai de la ligne suivante, on va surtout parler de la ligne 3D, qui commence ici avec scandium-titane et qui finit ici avec cuivre et zinc. Hein, il y a donc 10 éléments qui correspondent au remplissage progressif de la couche 3D. Et ces éléments sont évidemment, lorsqu'on les regarde en tant qu'éléments purs, sont les premiers dans lesquels le magnétisme apparaît dans la classification périodique, ce qui est déjà le signe, évidemment, qu'il y a des effets d'interaction électronique importantes, ne serait-ce que dans le métal pur, puisqu'il n'y a pas de magnétisme sans interaction, comme vous savez sûrement. Alors, il y a aussi les métaux de transition 4D, qui sont ici, qui ont des orbitales un peu plus étendues, on verra pourquoi tout à l'heure, et puis éventuellement les 5D. Et on va parler de ces différentes séries de métaux de transition au cours des cours qui restent d'ici la fin de l'année, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler surtout des oxydes de métaux de transition 3D, principalement. Mais lors du dernier cours, quand je vais vous parler, j'espère tout au moins, de l'effet du couplage de Hund, je prendrai comme exemple la physique des oxydes de ruthénium, qui sont donc des oxydes de métaux de transition 4D. Et puis le séminaire lié au dernier cours sera sur l'effet du couplage spin-orbit dans ces matériaux. Et ce sont pour les oxydes de métaux de transition de la couche 5D que ces effets deviennent très importants, en particulier pour les oxydes d'iridium. Et vous verrez ça donc, dans le séminaire de Léon Balanz lors du dernier cours. Alors, ça, ce sont les oxydes de métaux de transition. Et j'ose à peine rappeler que l'oxygène est ici. Voilà. Donc, quelle est la configuration électronique des atomes isolés? Mais vous voyez qu'on a des électrons, ça donc évidemment pour l'atome isolé, hein, par exemple le titane, eh bien, couche complète d'argon, un électron dans la couche 4S, trois électrons dans la couche 3D. Et puis ici, l'oxygène, comme tout le monde le sait, a une couche 2P, qui est incomplète, il lui manque deux électrons, il aime beaucoup prendre deux électrons. Donc ce qui va se passer quand on met de l'oxygène avec un de ces métaux de transition, c'est que cette couche 2P va pratiquement toujours se remplir en configuration 2P6, hein, à cause de l'affinité de l'oxygène pour les électrons, ce qui va donner à ces ions de métaux de transition le rôle de cation dans les structures. Alors, les grandes choses que font les oxydes. Alors, évidemment, on ne peut pas commencer un tel cours sans parler de la plus grande, probablement, de ces choses. Enfin, ce n'est peut-être pas la plus grande en taille de l'effet, mais en tout cas, c'est celle qui a attiré certainement le plus de couverture par les médias et par la communauté scientifique également, qui est la supraconductivité à haute température. Alors, vous voyez ici, c'est le fameux diagramme, je ne vais pas m'attarder longtemps, sur la température critique des supraconducteurs en fonction de l'âge de leur découverte. Et je remarque que tous les matériaux qui ont des températures critiques supérieures à celles de l'azote liquide, et c'est une barrière qui a une importance plus que psychologique, parce qu'elle a aussi une importance en termes de coût, sont tous des oxydes. Et ce sont incidemment tous des oxydes de cuivre. Donc ce sont les fameux cuprates, découverts il y a maintenant malheureusement plus de 25 ans, par Müller et Bednorz. Et je pense que c'est correct de dire ça, même actuellement, puisque comme vous allez l'entendre tout à l'heure, il y a une nouvelle famille de supraconducteurs à haut TC, alors un peu moins haut que les cuprates, mais quand même remarquablement haut, qui sont ces composés du fer, ces pnictures de fer supraconducteur. Alors, certains d'entre eux contiennent de l'oxygène, mais il est en fait incorrect d'un point de vue chimique de vraiment les appeler des oxydes. Donc vraiment, les oxydes de cuivre font des grandes choses en termes de supraconductivité. Ce ne sont pas des matériaux merveilleux pour les applications, malheureusement, quoi qu'encore. Alors, une autre grande chose que font les oxydes de métaux de transition, ce sont des transitions métal isolants. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans leur physique. Vous allez voir tout à l'heure, je vais essayer de vous montrer une espèce de carte de beaucoup d'oxydes, et vous verrez que la présence de phases isolantes, qui sont des phases isolantes de Mott, disons au moins de manière relativement vague, est quelque chose d'omniprésent dans cette physique. Et certains oxydes sont isolants de mode, certains oxydes sont métalliques, d'autres ont la chance, ou le malheur, je ne sais pas, de se trouver juste sur la frontière de cette instabilité. C'est une petite minorité qui ont cette propriété-là. La plupart sont loin dans la phase métallique ou loin dans la phase isolante. Certains, on peut les amener tout près de l'instabilité. Alors c'est le cas de ce matériau qui est le sesquioxyde de vanadium, VDO3, très connu, qui a été très très étudié au défunt laboratoire Bell Labs dans les années 70. Beaucoup de publications sur ce matériau. Ce matériau a la propriété d'avoir dans son diagramme de phase, ça c'est un diagramme de phase en température et pression ou substitution du vanadium par le chrome. En fait, ces deux diagrammes de phase sont essentiellement superposables. Eh bien, comme vous voyez, ce matériau a plusieurs phases, et en particulier, il a une transition, qui est ici une transition du premier ordre, avec un point critique terminal, entre une phase isolante paramagnétique, qui est une phase isolante de Mott, avec des moments locaux, et une phase métallique, qui est une phase métallique assez corrélée, avec des effets de corrélation importants près de la transition, et graduellement, un métal qui devient de meilleur en meilleur, quand je lui applique la pression. Alors, il existe également ici une phase isolante antiferromagnétique, puisqu'il faut bien que les spins qui sont ici fassent quelque chose quand on les refroidit, et en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'ordonnent. Donc, vous voyez que dans ce même matériau, en fonction de deux paramètres, température et pression, eh bien, on a un diagramme de phase qui est quand même d'une assez grande richesse, et à travers certaines de ces transitions, celle-là, par exemple, la résistivité saute discontinuement, toutes ces transitions sont du premier ordre, de plusieurs ordres de grandeur. Donc c'est encore une grande chose que font les oxydes. Toujours dans la série publicitaire, vers le milieu des années 90, il y a eu un très grand intérêt pour les oxydes de manganèse, donc l'antanMNO3 éventuellement substitué par le strontium. Et ce matériau a un diagramme de phase assez complexe également en fonction de la température et de la concentration X ici. Vous voyez qu'on a des phases qui sont paramagnétiques isolantes, paramagnétiques métalliques, et puis des phases ordonnées, ferromagnétiques, métalliques, isolantes, des phases avec ordre de charge. Et à travers certaines de ces transitions, le matériau a la propriété d'avoir des variations de sa résistivité avec le champ magnétique qui sont gigantesques par rapport à ce qui existe dans un métal normal. Comme le nom magnétorésistance géante était déjà pris par Albert Fert et Peter Greenberg, il a fallu en trouver un autre, donc on l'a appelé magnétorésistance colossale. Donc voilà, encore une grande chose que font les oxydes. Alors je pourrais continuer cette liste, ça deviendra un peu fastidieux. Je devrais également mentionner le coefficient Seebeck des oxydes de cobalt, mais j'espère vous avoir convaincu au moins rapidement qu'il y a des phénomènes physiques qui sont intéressants pour... par l'originalité de ce qu'il représente, mais aussi peut-être pour les applications. Vous voyez que j'ai choisi des exemples où on sent bien que si on avait un contrôle sur les matériaux, eh bien, on pourrait en faire quelque chose. Avoir de bons thermoélectriques, ça pourrait, alors ça va vous faire rire peut-être, mais ça pourrait révolutionner l'industrie des frigidaires, par exemple, mais ça a quand même une certaine importance. Ça pourrait permettre d'en faire qu'ils soient parfaitement silencieux, ce qui n'est pas si mal. Ça aurait aussi toutes sortes d'applications, par exemple pour faire du courant électrique avec la chaleur du pot d'échappement des voitures de manière efficace. Donc vous voyez qu'il y a des vrais enjeux sur la thermoélectricité, par exemple. Il y a évidemment de vrais enjeux sur la supraconductivité, ça je crois qu'ils ont été suffisamment décrits. Il y a aussi des enjeux pour ces transitions résistives en champ magnétique ou en fonction d'un paramètre, puisqu'on peut faire des switches, on peut faire des vitres intelligentes qui... laisse entrer la lumière mais reflète l'infrarouge, etc., etc. Donc, ces propriétés originales et spécifiques des matériaux qu'on va regarder ont un intérêt potentiel au-delà, je dirais, des questions fondamentales qu'ils soulèvent. Bon, alors, cette page de publicité étant tournée, on va maintenant entrer un petit peu plus dans le vif du sujet et parler de structure. Alors, c'est difficile quand même de parler d'oxydes de métaux de transition sans commencer par parler des monoxydes. Puisque, après tout, c'est la chose la plus simple qu'on peut faire. On prend du vanadium et de l'oxygène, on les met ensemble et on fait un monoxyde de vanadium. Alors, je ne vais pas beaucoup parler de ces monoxydes dans ce cours. En fait, c'est le seul transparent consacré aux monoxydes pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces monoxydes, au moins pour ceux qui concernent le début de la série des métaux de transition, donc le monoxyde de titane, le monoxyde de vanadium, ne sont pas des matériaux particulièrement agréables pour faire de la physique. Et je pense que Jean-Paul Pouget, qui est dans l'audience, ne me contredira pas. Il y a facilement des lacunes d'oxygène. Donc ce sont des matériaux qui sont facilement déficients en oxygène. Il faudrait un très bon contrôle sur les matériaux pour les étudier. Mais surtout, ce sont des matériaux où il n'y a que deux sites atomiques, celui du métal de transition et celui de l'oxygène. En fait, ils cristallisent dans la structure du sel de cuisine, NaCl, donc structure extrêmement simple que j'ai dessinée ici. Et on manque un petit peu de flexibilité dans cette structure pour faire du contrôle des matériaux. En fait, la physique des oxydes devient particulièrement intéressante quand on commence à regarder les composés ternaires, où il y a trois atomes, voire quatre atomes. Et évidemment, le nombre de composés qu'on peut fabriquer devient absolument gigantesque, mais aussi, comme je vais vous le montrer dans les transparents qui suivent, le contrôle sur les matériaux devient beaucoup plus intéressant. Alors, quand même, très rapidement, si je regarde la série des monoxydes, le long de la ligne 3D, eh bien, ces deux-là sont des métaux avec des problèmes de contrôle de la concentration en oxygène. Ceux-là sont très connus, donc oxyde de manganèse, de cobalt et de nickel, sont très connus pour être des isolants de MOT, ou comme vous le verrez à la toute fin du cours, plus précisément des isolants de transfert de charge, avec des gaps qui sont assez costauds. Comme vous voyez ici, le gap est au moins 3 électronvolts et peut être jusqu'à 5-6 électronvolts. Et ce sont des isolants antiferromagnétiques avec des températures de Néel qui sont relativement élevées pour certains, comme l'oxyde de nickel, 500 Kelvin. Alors là, je voudrais juste faire une pause très brève pour souligner le fait que même pour la plus grande ici, 500 Kelvin, vous voyez, qu'est-ce que c'est que 500 Kelvin ? Eh bien, c'est ridicule si vous le comparez à un électronvolt. Un électronvolt, c'est 12 000 Kelvin, donc ça, c'est un 22e, quelque chose comme ça, d'électronvolt. Donc, si vous comparez cette échelle d'énergie, qui est la température de mise en ordre des spins, au gap, qui est de l'ordre de 4-5 électronvolts, vous voyez qu'il y a un facteur considérable, un facteur 100, essentiellement. Et donc, il est tout à fait clair que lorsque vous allez chauffer le matériau au-dessus de sa température de Néel, eh bien, il va rester un très bon isolant, puisqu'il a un gap de 4 électronvolts. D'où il suit également que le caractère isolant de ces matériaux n'a rien à voir avec le magnétisme. Et ça, c'est l'objet de débats sans fin, tout au moins c'était l'objet de débats sans fin à une certaine époque. Est-ce que le magnétisme pilote est essentiel pour la transition de mode dans ce problème, ou est-ce que c'est un phénomène qui arrive à une échelle plus basse comme conséquence de la localisation électronique? Et il me semble parfaitement clair que c'est la deuxième possibilité qui est valable, et que ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est la localisation des degrés de liberté et de charge par l'interaction de Coulomb forte, et on a vu de manière très claire dans le cas des bosons qu'on n'avait pas besoin de spin pour faire ça. Le spin, c'est plutôt un embêtement pour le théoricien en particulier, qui va induire des degrés de liberté additionnels à basse énergie. Mais les électrons ont un spin, il faut bien s'en occuper. Bon, voilà à peu près tout ce que je voulais dire sur les monoxydes de métaux de transition. Et maintenant, je vais vous présenter une structure qu'on va revoir très souvent dans la suite de ces cours, que je trouve très belle et qui est en fait très simple, qui est ce qu'on appelle une pérovskite. Alors oui, non, quand même. J'ai quand même oublié de dire une chose qui est quand même essentielle. C'est que l'oxyde de nickel est quand même le premier exemple historiquement d'isolant de MOT ou d'isolant de transfert de charge qui ait été découvert au laboratoire Philips à la toute fin des années 30. Et il y a un célèbre proceedings de conférence dont j'avais un petit peu parlé dans ma leçon inaugurale où il y a une discussion entre Pyers, MOT et Wilson qui explique en termes assez intéressant et qualitatif, pourquoi ce matériau, bien qu'ayant une couche D incomplète, est tout de même un isolant. Et c'est le début des travaux de MOT qui reprendront donc plutôt à la fin des années 40 sur les isolants qui portent son nom. Bon, alors, donc, repassons à la structure pérovskite. Donc, la structure pérovskite, elle est très belle, je trouve, et elle est très intéressante parce qu'elle concerne des composés ternaires, où il y a trois éléments atomiques, et qui vont donc nous permettre aux chimistes du solide, surtout, de contrôler, dans une certaine mesure, les propriétés des matériaux, puisqu'on va pouvoir agir sur ce site ici. Alors, quelle est cette structure? Alors, vous voyez, c'est une structure, ici, je l'ai représentée, dans le cas idéal, d'une structure parfaitement cubique, qui existe dans la nature pour certains matériaux, comme celui-ci, par exemple, strontium VO3. Alors, dans cette structure, il y a donc de l'oxygène, il y a un métal de transition M, hein, et puis il y a un autre ion qui, on ne peut pas mettre n'importe quoi, il faut que ça rentre bien dans les trous de la structure, et souvent c'est une terre rare, ou du strontium, ou quelque chose comme ça. Et cette structure est formée d'un réseau cubique, un parfait réseau cubique, au nœud duquel on a cet atome R, que pour l'instant je ne spécifie pas, qui serait le strontium dans le cas de ce matériau-là. Et puis, on place dans chacun de ces cubes un octaèdre, donc avec 6 oxygènes, qui sont ici représentés en bleu, et au centre de cet octaèdre, le métal de transition, ici représenté en rouge. Donc ça, c'est la pérovskite cubique. Pourquoi ça s'appelle pérovskite? En fait, je l'ignorais jusqu'à la préparation de ce cours. Eh bien, c'est parce que la pérovskite, qui est calcium TiO3, a été baptisée ainsi à cause de M. Perovski, qui était, semble-t-il, un minéralogiste russe, puisque cette pérovskite, calcium TiO3, a été découverte dans les montagnes de l'Oural au milieu du 19e. Voilà, donc ça, c'est la structure pérovskite, et vous voyez qu'elle est faite d'unités structurelles qui sont ces octaèdres MO6 sur lesquels je vais revenir dans un instant. Alors ça, c'est la structure idéale. Elle existe le plus souvent, en fait, sous forme distordue. Donc il y a plusieurs distorsions possibles. Il y en a une qui est très fréquente, qui est ce qu'on appelle la distorsion gadolinium FeO3, dans lesquelles les octaèdres garde une forme parfaitement régulière, ou essentiellement parfaitement régulière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas compressés ou il n'y a pas d'élongation de ces octaèdres. Ça, ce serait une distorsion Jahn-Teller, qui existe aussi dans beaucoup de ces matériaux, en particulier dans les manganites et dans les cuprates, où elle est très grande. Mais dans cette simple distorsion-là, ces octaèdres restent essentiellement parfaits, la distorsion Jahn-Teller est faible, et ces octaèdres tournent autour d'un axe, avec un axe qui est évidemment différent pour cela, et celui-ci, et celui derrière, etc. De sorte qu'on finit par avoir 4 formules unités par formule par cellule unité. Hein. Donc on a une maille, une cellule élémentaire qui contient 4 métaux de transition. Et on n'a plus évidemment la symétrie cubique, on a une symétrie qui, dans le cas de ce dessin, est une symétrie dite orthorhombique. Alors ça permet déjà une certaine forme de contrôle sur la structure, parce que vous voyez, quand on fait ça, on change l'angle entre le métal de transition et l'oxygène, et comme les transferts électroniques dans ces systèmes se font, comme on le verra dans la suite, principalement par recouvrement des orbitales D du métal de transition avec les orbitales P de l'oxygène, eh bien, lorsqu'on commence à changer cet angle, ce recouvrement devient moins favorable et l'intégrale de transfert, donc la largeur de bande du matériau, en est un peu réduite. Donc c'est déjà un premier intérêt de cette distorsion. Il y a aussi un côté malheureux, c'est que ça rend l'étude légèrement plus compliquée, mais c'est un premier intérêt de cette distorsion que de permettre un contrôle, alors ce n'est pas un contrôle au sens des gens qui font des réseaux optiques, un contrôle de la largeur de bande. Alors, comme la physique du solide, c'est toujours compliqué, quand on fait ça, comme vous allez le voir dans la suite, on ne fait pas que changer la largeur de bande. Malheureusement, on change aussi d'autres choses. Et en particulier, vous allez voir, on change la dégénérescence des niveaux D, et c'est au moins aussi important que de changer la largeur de bande. Donc, je vais y venir dans la suite. Alors, les chimistes aiment bien introduire, pour caractériser ces pérovskites distordus, un truc qui s'appelle le facteur de tolérance, et je suis sûr qu'Antoine Meignan en parlera la semaine prochaine, donc je l'introduis ici. Imaginez que vous ayez cette structure pérovskite parfaite, cubique, et que vous remplissiez ce truc avec des sphères dures qui se toucheraient. Donc, le close packing parfait. Alors, vous pouvez faire l'exercice sur un papier ou chez vous avec des boules et des sticks. Et vous vous rendrez compte facilement que si j'appelle A la maille du réseau cubique formé par les atomes R, eh bien la distance OR est évidemment A sur racine de 2, et la distance oxygène-métal est simplement la moitié de ce cube, donc A sur 2. Donc si vous voulez remplir cette structure avec des sphères dures qui se touchent, eh bien il faut que le rayon ionique de votre boule R plus le rayon ionique de votre boule oxygène soit égal à la distance au R, hein, et de même le rayon ionique du métal plus le rayon ionique de l'oxygène doit être égal à la distance OM. Ce qui veut dire que dans la pérovskite parfaitement cubique, avec un empilement parfait de ces sphères dures, ce facteur, qui est RR plus RO sur racine de 2 RM plus RO, est égal à 1. Et empiriquement, on constate que quand ce facteur, dit facteur de tolérance, est égal à 1, la structure est effectivement parfaitement cubique. Alors évidemment, il faut savoir quoi mettre ici. C'est le rayon ionique des atomes dans la valence nominale dans lesquelles ils sont dans la structure. Quand ce facteur est égal à 1, c'est cubique. Et quand le facteur est plus petit que 1, la structure se déforme. D'abord, quand il est petit, tout ça c'est empirique, selon une structure qui a une symétrie rhomboédrique, puis selon la structure orthorhombique que je vous ai montrée tout à l'heure. Et puis, quand ce facteur de tolérance devient plus petit, la structure est instable. Voilà. Alors, en pratique, il y a une relation essentiellement linéaire entre l'angle, le fameux angle oxygène-métal-oxygène dont je parlais tout à l'heure, et ce facteur de tolérance qui est assez bien vérifié. Et ça, ça définit un ensemble de règles empiriques qui permettent aux chimistes du solide de s'orienter dans la fabrication de ces structures. Bien, alors, comme je le disais, tout ceci offre un certain degré de contrôlabilité de ces matériaux. En particulier, on a déjà vu qu'en jouant sur ce facteur de tolérance qui va dépendre du rayon ionique de l'atome R, eh bien, on va pouvoir jouer sur la largeur de bande, mais aussi sur la levée de dégénérescence des niveaux D. Mais on peut également utiliser les substitutions sur le site R pour contrôler la valence, au moins la valence nominale, dans une image parfaitement ionique du système, du métal de transition lui-même. Alors, on peut prendre un exemple. Si je prends par exemple strontium TiO3. Alors, le strontium, vous le voyez ici, c'est quelque chose, c'est un atome qui a la couche complète du krypton et deux orbitales, deux électrons dans la couche 5S. Alors, l'orbitale 5S, c'est une orbitale qui est extrêmement étendue, elle a plein de nœuds, donc c'est la première chose que ces deux électrons vont vouloir faire, c'est s'en aller sur l'oxygène. Donc, on va certainement avoir strontium dans l'état 2+. Et puis, on ne va plus toucher à la couche complète du krypton. Donc, on va avoir strontium 2+, et l'oxygène étant 2-, évidemment, eh bien, vous voyez que le titane doit être dans l'état 4+, pour assurer la neutralité électrique. Alors ça, évidemment, c'est dans une image de parfait cristal ionique qui, pour strontium TiO3, est probablement une image très correcte parce que c'est un isolant avec un gap significatif et c'est effectivement un composé très ionique. Ce genre de comptage pour les métaux est évidemment un peu plus discutable. Bon, alors, voilà donc strontium TiO3, strontium 2+, donc vous voyez que le titane est dans l'état 4+, et comme la configuration atomique du titane, c'est 4S1-3D3, eh bien, vous voyez que ça veut dire que tous les électrons de valence du titane doivent aussi être donnés à l'oxygène, et par conséquent, la couche 3D du titane dans STO est vide, et c'est pour ça qu'on a un isolant de bande, il n'y a pas d'électrons de valence disponibles. Si maintenant vous substituez le strontium par le lanthane, eh bien, vous pouvez faire le même comptage, mais cette fois, le lanthane a une configuration 6S2-5D1, donc il a un électron de plus dans ses couches de valence. Et donc, vous voyez que maintenant, le titane va être dans un état 3+. Ce qui veut dire qu'on aura exactement un électron D dans la couche 3D. Alors, si vous êtes quelqu'un de la théorie des bandes, vous penseriez, je pense, qu'on aurait à ce moment-là un métal, puisque vous avez une couche D partiellement remplie. Or, il n'en est rien. LaTiO3 est aussi un isolant, mais avec un petit gap d'environ 0,2 eV. Et donc, vous voyez, c'est déjà une première manifestation du phénomène de Mott. Mais vous voyez qu'ici, donc, en faisant des alliages, lanthane à moins X, strontium X, TiO3, vous pouvez faire du contrôle de la valence du titane, et vous pouvez donc doper ces isolants, donc soit doper en trou cet isolant de Mott, soit doper en électrons cet isolant de bande pour fabriquer un métal. Et on sait effectivement faire ça. La solution solide existe pour carrément quasiment toutes les concentrations. Donc voilà encore une manière de contrôler, cette fois en dopage, un oxyde de métal de transition grâce au fait que cette structure perovskite est une structure ternaire. Bien. Alors, la structure perovskite a également des déformations, enfin des enfants, très intéressants, qui est ce qu'on appelle la série de Rudleston-Popper. Et cette série, elle consiste à répéter ce motif où on a une structure de type perovskite avec ce réseau cubique d'atomes R et mésoctaèdres, mais avec des couches intermédiaires où on a comme ça ces atomes R, par exemple ici le strontium entre. Alors on peut répéter ça avec soit ici un motif, donc c'est la structure où j'aurai, vous voyez ici, deux plans comme ça, ou bien trois motifs, ici trois plans comme ça, trois plans R, etc., etc. Alors, vous voyez que c'est un peu compliqué, mais ça, c'est la cellule unité de la structure N égale 2. Si vous faites le comptage, vous voyez que la formule de ce matériau, c'est Rn plus 1, Mn, O3n plus 1. Et formellement, la structure perovskite parfaite, dont je parlais tout à l'heure, correspond à la limite N tend vers l'infini de ce système, hein, où je répéterai ce motif intermédiaire jusqu'à l'infini en repoussant ces deux plans à l'infini. D'accord ? La première structure de cette série, c'est en fait la structure N égale 2, qui correspond à ces perovskites, fortement bidimensionnels. L'exemple le plus célèbre de ces perovskites fortement bidimensionnels étant lanthane, strontium, cuivre, oxygène, qui est un des cuprates supraconducteurs. Mais je vous parlerai aussi pas mal, lors du dernier cours, de ce matériau-là, strontium 2 ruthénium O4, qui est donc une des ces perovskites bidimensionnelles, qui est un cousin des cuprates, à part que ce n'est pas du cuivre, mais du ruthénium, et qui a des propriétés assez remarquables. En fait, ce matériau est l'oxyde pour lequel on sait faire les plus beaux monocristaux et les plus gros que je connaisse, et donc pour lesquels on sait faire des études de physique fondamentale extrêmement propres. C'est une sorte de matériau test, si vous voulez. Donc voilà cette série de Rudleston-Popper, qui a évidemment beaucoup d'importance, en particulier depuis la découverte des cuprates. Et vous voyez que cette série, elle offre une troisième possibilité de contrôle, qui est un contrôle par la dimensionnalité du système. Alors voilà des exemples. Il y a un très bel article de revue par Imada, Fujimori et Tokura, Tokura étant un des très grands chimistes du solide dans ce domaine, au Japon. Et vous voyez ici des matériaux qui existent et puis des matériaux qui n'existent pas. Alors ceux qui existent, ce sont les matériaux en noir. Et donc ce qui est représenté ici, c'est plein de perovskites cubiques ou distordus, mais de formule RMO3, lorsqu'on se déplace le long de la ligne des métaux de transition. Donc ça, c'est la solution solide SRTiO3 et LaTiO3, dont je parlais tout à l'heure, donc entre D0 et D1, si vous voulez. Ça, c'est la même strontium VO3, lanthane VO3, qui interpole entre D1 et D2. On peut faire aussi le chrome, on peut faire aussi le manganèse. Tous ces matériaux existent, et toutes les solutions solides existent. Et elles ont été étudiées et synthétisées par les chimistes du solide. Voilà. Puis il y en a certaines qui n'existent pas, surtout du côté des oxydes de métaux de transition lourds ou tardifs, donc à la droite de la série. Apparemment, ces matériaux-là n'ont pas encore été synthétisés ou sont instables. Donc ça, c'est pour les perovskites tridimensionnels, beaucoup sont distordus. Et puis ça, ce sont donc des perovskites de la série de Rudleston-Popper avec N égale 2, donc des perovskites bidimensionnels. Et donc, vous voyez, il y en a aussi beaucoup, beaucoup qui existent. avec bien sûr ici quelque part les fameux cuprates. Bon, donc voilà un exemple. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que si je fais une carte un petit peu similaire, mais que j'indique en plus les propriétés physiques du système sur cette carte, eh bien vous allez voir que la physique de la transition de Mott joue réellement un rôle essentiel. Alors, c'est une carte un petit peu compliquée, donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc il s'agit de RMO3, alors là il s'appelle ABO3, mais A c'est R, B c'est le site de métal de transition, et O c'est l'oxygène. Et ce qui est représenté ici, c'est les différents éléments le long de la ligne des métaux de transition, où on remplit la couche D, donc D0, D1, D2, etc., quand on passe de scandium, titane, vanadium. Et puis, on a indiqué ici les matériaux, les solutions solides qui existent et qui permettent, par substitution sur le site R, ici, hein, donc il s'appelle... ici il s'appelle le site... Ici, B, c'est le site R, et A, c'est le site des métaux de transition. Je suis désolé. Donc, par substitution... Non, c'est bien ça. Excusez-moi. En changeant, la manière dont on doit lire ça, c'est qu'en changeant R, qui s'appelle ici A, on change la valence B du métal de transition. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, ce qui se passe, c'est qu'on peut soit jouer sur le remplissage, donc soit jouer sur le dopage, hein, comme je l'ai décrit tout à l'heure pour ce couple lanthane-strontium-TiO3, soit jouer eh bien, sur, essentiellement, la largeur de bande, mais également la levée de dégénérescence de la couche D. Et ce qui est représenté en gris, donc toute la zone grise ici, ce sont des isolants. Toute la région blanche ici, ce sont des métaux. Et donc vous voyez que, d'une part, beaucoup de ces matériaux sont des isolants, essentiellement des isolants dus au phénomène de Mott. Donc présence de du phénomène de Mott vraiment évident sur cette carte. D'autre part, il y a quand même un certain nombre de ces oxydes, pas énormément, mais il y en a quand même qui sont des métaux. Même quand on ne les dope pas, quand on les dope, on peut les rendre métalliques, mais même quand on ne les dope pas, il y en a un qui est assez exceptionnel, qui est celui-ci, qui est un très bon métal, mais c'est une exception. Et puis d'autre part, on peut induire la transition métal-isolant, soit en dopant, évidemment, soit en substituant, par exemple, en comparant à valence constante. On a par exemple ici, vous voyez, strontium VO3, qui est un métal, ou bien lanthane TiO3, qui a aussi un électron dans la couche D, mais qui est un isolant. Donc voilà une sorte de carte. Cette carte a été dressée dans les années 90 par Atsushi Fujimori, qui est ici, et qui est aussi un grand nom du domaine, en particulier pour, d'une part, des expériences de photoémission assez pionnières dans ce domaine, et d'autre part, une analyse des états électroniques du système, en particulier par des méthodes de configuration d'interaction. Alors voilà un autre exemple. Vous voyez cet exemple-là, il se trouve du côté des oxydes de métaux de transition relativement tardifs, ici. Donc RNiO3, où R est une terre rare. Et c'est le diagramme de phase qui a été ici représenté par ces chercheurs, d'IBM Sandrosé, je crois, en fonction de la température et de ce fameux facteur de tolérance dont je parlais tout à l'heure. Mais ce qui est fait en pratique, c'est de substituer différentes terres rares sur le site R. Et vous voyez que ces nickelates, RNiO3, peuvent être soit des métaux, soit des isolants paramagnétiques, soit des isolants antiferromagnétiques avec des transitions en température, par exemple, qui sont des transitions du premier ordre. Et donc, ce diagramme de phase, finalement, ressemble beaucoup, mais représenté d'une manière très différente, à celui de VO3, dont je parlais tout à l'heure, hein, quand on parcourt cette série. Alors, pour ceux qui étaient à la conférence Paris Edge il y a quelques semaines, vous avez sans doute entendu un séminaire de Léon de Balance qui concernait cette série, et cette, en particulier LANIO3, qui est le seul de cette série à être un métal. Bien, donc voilà un petit peu les structures et j'espère que je vous ai communiqué un certain enthousiasme pour la beauté de cette structure chimique perovskite et de ses dérivés de basse dimensionnalité. Alors maintenant, il n'y a pas que la structure quand même, il y a aussi les électrons, donc il faut parler des orbitales atomiques. Alors si je prends l'atome isolé, bien sûr j'ai la symétrie sphérique parfaite. J'ai donc mes électrons D qui ont un moment angulaire L égale 2, Il y a donc 2L plus 1 égale 5, état atomique D, dégénéré parfaitement, puisque j'ai la symétrie sphérique parfaite. Et si je compte du spin, ça veut dire qu'il y a 10 cases pour mettre des électrons dans mon orbital D. C'est pour ça qu'il y a 10 métaux de transition par ligne. Alors maintenant, évidemment, je ne dois pas considérer l'atome de manière isolée. Je dois le placer dans la structure cristalline. Et la première chose qu'on peut faire, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe quand je mets mon atome au centre de cet environnement, par exemple, octaédrique d'oxygène, en symétrie parfaitement cubique. Alors, ce qui se passe, c'est que le potentiel électrostatique qui est vu par le métal de transition n'a plus la symétrie sphérique, et par conséquent, la dégénérescence du multiple D va être brisée. Et la question est de savoir comment elle est brisée. On peut faire ça de manière assez simple, en théorie de perturbation, si on tient compte simplement du potentiel créé par des charges ponctuelles, on imagine que ces oxygènes sont des charges ponctuelles, et on calcule en perturbation la levée de dégénérescence. C'est ce qu'on appelle la théorie du champ cristallin, qui a été initiée par Hans Bethe, encore lui, et Van Vleck un peu plus tard, et d'autres. Alors, je vais vous décrire brièvement comment ça marche pour le cas d'une symétrie cubique. Alors, pour le cas d'une symétrie cubique, c'est très simple. En fait, il faut commencer par réarranger les orbitales, les harmoniques sphériques, en harmoniques qui respectent les symétries du cube. Alors, quand on fait ça, on s'aperçoit que par combinaison linéaire, tout simplement, d'harmoniques sphériques, on peut fabriquer deux groupes d'harmoniques cubiques. Des groupes, un groupe qui contient trois orbitales qui s'appellent x, y, x, z et y, z, et qui ont cette forme-là. Donc ça, ce sont par exemple les axes x et y. Donc ce sont des orbitales dont les lobes, une orbitale d, ça ressemble toujours à une sorte de trèfle, et les lobes de ce trèfle pointent selon les diagonales des axes cartésiens ici qui nous conduiraient de l'élément de transition vers l'oxygène. De même, dxz, dyz. En revanche, il y a un autre groupe de deux orbitales, x2-y2 et 3z2-r2, dont les lobes pointent selon les axes cartésiens, donc vers les oxygènes. Alors, en termes de théorie des groupes, ça s'appelle le triplet T2G, et ça s'appelle le triplet EG. Le G, je crois que c'est pour Gerhardt, mais je n'en suis pas sûr. Alors, je vais d'abord vous le décrire avec les mains, et puis ensuite j'ai quelques équations pour vous justifier ça. Qu'est-ce qui va se passer pour la levée de dégénérescence du multiplet D? Eh bien, vous voyez que ce qui se passe, c'est que si je regarde la manière dont les orbitales, par exemple XZ, où X et Z seraient ces deux axes, et les orbitales d'oxygène se parlent, eh bien, c'est essentiellement une hybridation de type pi, puisque ces orbitales-là ont des lobes qui pointent selon les directions, les diagonales de la structure. Donc, vous voyez que ça, ça permet un transfert électronique à travers une liaison pi à travers l'oxygène, mais ça veut aussi dire que finalement, ces électrons D ici vont sentir une répulsion coulombienne qui va être plus faible que pour les orbitales du doublet EG qui, eux, ont des lobes qui pointent directement vers les orbitales d'oxygène. Donc, on sent bien que la montée en énergie due à ce recouvrement de ces orbitales T2G va être plus faible que celle des orbitales EG. Et donc, dans un environnement octaédrique de ce type, où les oxygènes sont selon les axes de ma structure, eh bien, je vais avoir un triplet T2G qui va avoir une énergie plus basse que le doublet EG. Alors, si vous voulez mettre un petit peu de mathématiques là-dedans, ce n'est pas compliqué. Vous commencez par prendre les fonctions d'onde de l'atome d'hydrogène avec L égale 2, donc j'ai ces harmoniques sphériques. Vous fabriquez des harmoniques cubiques qui se transforment comme une représentation irréductible du groupe du cube. Alors, donc, par exemple, XY, pourquoi on l'appelle XY? Eh bien, parce que c'est XY sur R2. Vous voyez que si vous prenez X et Y ici, vous allez trouver une certaine combinaison linéaire des harmoniques sphériques qui sont là, en l'occurrence l'harmonique L égale 2, avec M égale 2 et M égale moins 2. Et puis, ce que vous pouvez faire ça pour toutes celles dont je parlais. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous prenez le potentiel créé par 6 charges ponctuelles au sommet d'un octaèdre, qui est donc simplement ce potentiel-là, Z c'est la charge du noyau, et vous développez ce potentiel en puissance de 1 sur D, essentiellement, où D est la distance entre l'oxygène et le centre de l'octaèdre. Alors, vous avez un premier terme, qui est une constante, Z de 2 sur 4 pi epsilon 0 fois 6 sur D, qui va être la montée globale de l'ensemble du multiple D. Et puis, vous avez une perturbation non sphérique, comme vous voyez, puisqu'elle fait intervenir les harmoniques sphériques avec L égale 4, qui est en 1 sur D5, ou R4 sur D5, où R est la distance depuis le centre de l'octaèdre. Donc ça, c'est un terme que vous pouvez traiter en perturbation. Et si on a bien arrangé nos harmoniques cubiques au départ, eh bien, les éléments de matrice de cette perturbation dans ces harmoniques sont diagonaux. Et ils valent par symétrie, c'est évident, en fait, tous la même chose pour le triplet T2G et tous la même chose pour le doublet EG. Et c'est cette différence delta T moins delta E qui est l'élément de matrice de cette chose-là dans les harmoniques de tout à l'heure, qui me donne la levée de dégénérescence, et vous arrivez à un coefficient numérique fois l'intégrale de R4 sur D5, et donc cette formule-là qui vous donne la levée de dégénérescence dans la théorie du champ cristallin. D'accord ? Donc, le résultat, au bout du compte, c'est ça, c'est qu'en symétrie cubique, avec un environnement octaédrique comme celui de ma perovskite RMO3, eh bien, mes 10 états possible D, se sont séparés entre un triplet 2 fois 3 T2G et un doublet 2 fois 4 EG, 2 fois 2 EG. Alors évidemment, si vous continuez à abaisser la symétrie, par exemple dans ma structure perovskite distordue, qui devient donc orthorhombique, eh bien, il y a des levées de dégénérescence supplémentaires, selon les bons principes de la mécanique quantique, par exemple en symétrie orthorhombique, eh bien, il se trouve que les choses se séparent de cette manière. Alors ça, c'est un phénomène très, très, très important, en particulier sur le fait que, quand je vais commencer à distordre cette structure, je vais changer les recouvrements électroniques, donc je vais changer la largeur de bande. C'est un phénomène qui, certes, est important, mais celui-ci est peut-être même encore plus important. Je vais passer d'une structure qui aurait, par exemple, des électrons dans trois orbitales T2G dégénérées, dans la structure cubique, à des électrons qui doivent se répartir entre trois orbitales T2G qui maintenant ne sont plus dégénérées. Et comme on le verra peut-être dans le cours prochain, ça change fortement cette levée de dégénérescence, les valeurs critiques liées à la transition de mode. Et il est tout à fait impossible de comprendre, par exemple, pourquoi strontium VO3, qui est un composé D1 et un relativement bon métal, est un métal, alors que yttrium TiO3, qui est aussi un composé D1, avec une interaction de Coulomb à peu près similaire et une largeur de bande qui est seulement 20 ou 30% plus petite, est lui un isolant avec un gap d'un électron-volt. C'est très important de comprendre que la levée de dégénérescence permet ce phénomène. Bon, alors, pour finir sur la théorie de champ cristallin, je ne peux quand même pas résister au plaisir de dire que ça explique, par exemple, beaucoup de choses, et en particulier pourquoi le rubis est rouge et l'émeraude est verte. Donc, ça, c'est bien connu, mais bref rappel, le rubis, c'est Al2O3, avec des substitutions en très faible nombre de chrome sur les sites d'aluminium. Alors, la couleur rouge du rubis est entièrement due à la manière dont les niveaux D du chrome voient leur dégénérescence levée par le champ cristallin dans ce matériau. Alors, il se trouve que le comptage d'électrons que je faisais tout à l'heure vous montre que le chrome est en configuration 3+, dans le rubis, ça veut dire qu'il y a 3 électrons, et il y a une levée de dégénérescence par le champ cristallin entre un T2G et un EG. Ces 3 électrons vont naturellement se mettre dans la couche la plus basse. On a donc 3 électrons qui occupent le multiplet T2G, et les premières transitions optiques sont les transitions entre ce multiplet T2G et ses orbitales EG, ou entre les bandes T2G et les bandes EG. Alors il se trouve que dans ce matériau, au miracle, cette transition optique est à 2,21 électronvolts. Alors où est-ce que c'est 2,21 électronvolts? Si vous le convertissez en longueur d'onde, c'est 1240 sur l'énergie en électronvolts, et vous obtenez la longueur d'onde en nanomètre, eh bien, quand vous faites ça, vous trouvez que c'est une longueur d'onde de 561 nanomètres, qui est juste dans le jaune et le vert. Ce qui veut dire que ce matériau ne va pas absorber le rouge, mais va absorber le jaune et le vert, et de nouveau absorbera faiblement le violet. Par conséquent, vous vous attendez à ce que ce matériau, puisqu'il absorbe fortement le jaune et le vert, mais ni le rouge ni le violet, eh bien, soit un matériau qui va être essentiellement d'un beau rouge violacé, d'où le rubis. Si vous faites la même chose pour l'émeraude, qui est aussi une substitution analogue, mais dans une autre matrice cristalline, eh bien, vous trouvez que cette énergie de champ cristallin est légèrement déplacée, et cette fois, l'émeraude est verte. Voilà. Donc, disons, cette chimie très simple du solide est quand même importante pour l'industrie des joailliers. Et vous voyez que la couleur rouge du rubis est évidemment un phénomène essentiellement quantique. Mais ça, on s'en doute bien. Bon, alors, tout ça c'est très bien, mais il n'y a pas que des atomes dans un solide. Il n'y a pas que un atome de métal au centre d'un octaèdre d'oxygène. Il y a en fait beaucoup d'atomes qui forment un réseau cristallin. Donc il faut passer de cette description d'orbital atomique à une description de bande, une description qui tienne compte du solide étendu. Donc pendant un certain temps, là, je vais vous parler de bande d'énergie. Alors, on va prendre un exemple simple pour commencer. Strontium VO3, toujours le même. La pérovskite cubique parfaite, en environnement cubique octaédrique. Donc on a vu qu'on avait un triplet T2G et un doublet EG plus haut. Donc vous vous attendez à ce que ce triplet T2G donne trois bandes d'énergie, dans une image, disons, de liaison forte, où on fabrique ces bandes par combinaison linéaire d'orbital atomique T2G en première approximation. Et puis le doublet EG donne deux bandes d'énergie. Et puis les orbitales d'oxygène, il y en a trois dans la formule unité. Chaque oxygène a trois orbitales P. 3 fois 3, ça fait 9. D'accord ? Donc vous devez trouver dans la cellule unité 9 bandes d'oxygène, qui évidemment, d'oxygène 2P, qui évidemment veulent toutes avoir leurs électrons, donc être complètement pleines. Bon, alors voilà le résultat d'un calcul de structure électronique moderne, en utilisant les méthodes fonctionnelles de densité, de ces bandes d'énergie. Alors, à la première vue, ça ressemble à un plat de spaghettis difficile à comprendre, mais en réalité, c'est très simple. Si vous regardez ce paquet ici, le niveau de Fermi est là, donc ça, c'est tout occupé. Hein. Si vous regardez ce paquet ici, et que vous comptez, alors, il ne faut pas compter au point gamma, parce que le point gamma, c'est le centre de la zone de Brillouin, et il y a des tas de dégénérescences supplémentaires. Il faut compter quelque part un point générique. Avec des bons yeux, vous verrez qu'il y a exactement 9 états. Et ces 9 états sont les 9 bandes, essentiellement 2P, de l'oxygène, toutes pleines, puisqu'elles sont sous le niveau de Fermi. Voilà, donc on a compris ça. Maintenant, si vous regardez ces bandes ici, eh bien, vous verrez qu'il y a trois états, 1, 2, 3. Et ça, ce sont les trois bandes, essentiellement T2G, du vanadium. Le niveau de Fermi est placé de manière telle qu'il y a exactement un électron D dans cette bande, un électron, disons, qu'il soit D, on peut discuter, mais en tout cas un électron dans cette bande, de manière à avoir la neutralité électrique requise. Si vous regardez ici, vous voyez que vous avez deux bandes plus hautes en énergie, leur centre de gravité va être quelque part là, et ce sont les bandes EG, vides. Hein ? Donc la levée de champ cristallin, dans cette image de charge ponctuelle, a maintenant donné une distance en énergie entre, disons, le centre de gravité de cette bande, là, pas très loin du niveau de Fermi, et puis le centre de gravité de celle-là, à peu près 3 électronvolts au-dessus. Hein ? Et puis ici, ce sont d'autres bandes vides, les strontium 5S et 4D, etc. Donc vous voyez comment on peut analyser cette structure de bande avec ces idées très simples d'orbital atomique. Alors, ce calcul de structure de bande nous dit que strontium VO3 devrait être un métal avec une valence nominale qui soit en gros un électron D. Et effectivement, c'est un métal. C'est un métal, mais ceci étant dit, si on calcule la densité d'état au niveau de Fermi de ce métal par ces méthodes de calcul de structure électronique, on trouve une valeur qui est à peu près deux fois trop faible par rapport aux mesures de chaleur spécifiques. Donc c'est quand même, ou de l'oscillation quantique. Donc c'est quand même un métal avec des corrélations je dirais, appréciable et une masse effective, on a vu ce que c'était la dernière fois, de l'ordre de 2 par rapport à la masse de bande. Alors, je continue dans la fermiologie. Je vais déborder un peu mon horaire aujourd'hui, puisque je suis arrivé en retard et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je continue un petit peu dans la fermiologie. Ce qui est représenté ici, c'est le résultat du même calcul, mais cette fois la densité d'état. Et donc, vous voyez la même chose que ce que je racontais là. C'est la densité d'état, mais maintenant résolue en, je dirais, caractère orbital de chacune des bandes. C'est-à-dire qu'on a pris les ondes de Bloch, on les a projetées sur des orbitales atomiques de ces différents atomes, et on a défini ainsi une densité d'état partielle. La densité totale, c'est la courbe noire. Une densité d'état partielle qui nous permet de voir le caractère orbitalaire de chacune des contributions. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Le niveau de Fermi est là, à zéro. Et donc, vous voyez qu'au voisinage du niveau de Fermi, eh bien, on est essentiellement vanadium T2G, hein, qui est le gros truc rouge ici. Et il y a quand même un petit peu de caractère oxygène. Alors ça, c'est normal, puisque les orbitales T2G ont un recouvrement pi, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les orbitales d'oxygène. Donc il y a un petit peu d'hybridation avec l'oxygène, ce n'est pas du pur T2G. Autrement dit, si vous voulez construire les ondes de Bloch correspondant à ces trois bandes que j'ai montrées tout à l'heure, il vous faut les orbitales atomiques qui ne soient pas seulement les orbitales du vanadium, il vous faut aussi les orbitales d'oxygène dans la combinaison linéaire. C'est ça que ça veut dire. Mais vous voyez que cette contribution est relativement petite. Ici, vous avez évidemment en bleu les oxygènes, mais vous voyez que les oxygènes, ils ont aussi un poids important sur les orbitales EG du vanadium. Et ça, c'est normal, puisque les oxygènes se recouvrent très bien avec les orbitales EG du vanadium. Et de même ici, les orbitales EG du vanadium, qui sont ici, ont un assez fort caractère oxygène. Donc tout ça est assez mélangé quand même. Alors on peut représenter ça autrement, je ne vais pas vous épargner les bandes aujourd'hui, hein, je vous préviens. On peut représenter ça autrement. On peut prendre en chaque point K et pour chaque bande, l'onde de Bloch, psi K nu, et la projeter sur les orbitales atomiques, phi Lm. Et représenter une petite barre ici, dont la largeur va être proportionnelle à cet élément de matrice. Ça s'appelle les fat bands. C'est un truc très populaire dans une certaine communauté de structures électroniques, y compris dans notre propre équipe. Et ça permet de voir visuellement le caractère orbitalaire des différentes bandes. Alors vous voyez ici que ces trois bandes ont bien un caractère majoritairement vanadium T2G, mais que ce caractère bave un petit peu sur les oxygènes. Vous voyez que les oxygènes, en fait, ils sont partout, mais évidemment, ils sont surtout sur les oxygènes. Vous voyez que le vanadium EG est principalement là, mais il bave un peu aussi sur les oxygènes. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est une sorte de chirurgie qui permet de bien comprendre la nature de ces bandes d'énergie. Bien, alors j'ai résumé ici un certain nombre d'informations clés sur la structure de bande de ce matériau. On a, au voisinage du niveau de Fermi, un multiplet de trois bandes T2G qui, dans ce matériau, sont bien isolées. Vous voyez que ces trois bandes sont bien séparées des autres. Alors, évidemment, j'ai choisi cet exemple parce qu'il est simple. Dans beaucoup, la plupart des autres exemples, tout ça se mélange de manière assez horrible. Mais bon, pour les questions de pédagogie, j'ai choisi ça. Donc ici, trois bandes relativement bien isolées, des orbitales d'oxygène en dessous et des bandes EG du vanadium au-dessus. Des bandes T2G occupées par un électron, on ne devrait pas vraiment dire un électron D, parce qu'évidemment cet électron a un caractère mixte, hein. Et en plus c'est un métal, donc l'image ionique n'est pas vraiment super bonne, mais bon. Une largeur de bande qui pour ce matériau est autour de 2,6-2,8 électronvolts, une distance entre le centre de gravité des orbitales T2G et les oxygènes qui est assez grande, qui est de l'ordre de 6 électronvolts, hein. Et une structure de bande qui, au niveau de ces calculs de structure électronique, est celle d'un métal, et le composé est bien métallique. D'accord ? Donc, voilà déjà un certain nombre d'échelles d'énergie importantes, la largeur de bande du système, la distance entre la bande du métal, bande de vanadium, et la bande des oxygènes, qu'on appelle l'énergie de transfert de charge, delta, dans la suite de ces transports. Alors, je pourrais vous raconter d'autres choses sur la largeur de bande. Cette largeur de bande, d'où vient-elle? Donc cette énergie cinétique disponible pour les électrons D, si vous voulez, d'où vient-elle? Bien évidemment, elle ne vient pas du recouvrement direct des orbitales D entre elles, puisque chacun de ces vanadiums est dans sa cage d'oxygène. D'accord? Donc le recouvrement direct d'un octaèdre à l'autre entre orbital du vanadium est très petit, très très négligeable. Il vient de cette hybridation pi entre les orbitales du vanadium et mes orbitales d'oxygène. Donc le transfert électronique se fait via les orbitales d'oxygène. Donc il y a un recouvrement TPD, disons, entre les orbitales D et les orbitales P de l'oxygène, mais il y a aussi le fait que ces deux types d'orbitales ne sont pas au même niveau d'énergie. On a vu que les orbitales d'oxygène étaient plus basses en énergie puisqu'elles aiment avoir deux électrons. Et donc vous voyez que cette énergie de transfert de charge entre l'oxygène et le vanadium, c'est en fait une énergie qui est grande, plusieurs électronvolts, par rapport à l'amplitude de recouvrement TPD, qui est une fraction d'électronvolts. Autrement dit, je peux traiter, disons au moins pour être simple, ce recouvrement TPD en perturbation et en arriver à un recouvrement effectif de vanadium à vanadium qui va être d'ordre TPD carré sur delta. Et donc c'est ce TPD carré sur delta qui contrôle la largeur de bande du système. Bon, donc qu'est-ce que c'est le modèle du théoricien d'un oxyde si pour l'instant j'oublie les interactions électron-électron, qui évidemment sont très importantes, mais la partie à un électron de l'Hamiltonien. Bien, vous voyez que dans l'esprit d'un théoricien, comme moi et beaucoup d'autres, un oxyde, c'est des orbitales P d'oxygène, des orbitales D du métal de transition. Ces orbitales P et ces orbitales D se recouvrent avec un certain recouvrement d'amplitude de saut TPD, et puis une énergie de transfert de charge qui me dit que les orbitales D sont plus hautes que les orbitales P, et puis d'autres termes qu'on a fortement envie de ne pas considérer, mais qui existent dans le solide, qui sont les sauts directs oxygène-oxygène, qui, eux, ne sont pas si petits que ça. Voilà, donc ces échelles d'énergie sont très importantes. Et évidemment, j'ai écrit cet Hamiltonien à la manière du célèbre modèle de la vache sphérique, dans lequel j'ai complètement oublié les indices d'orbital, dont je viens de vous raconter pendant une demi-heure qu'ils étaient très importants, parce que la levée de dégénérescence, etc., etc. Donc il faudrait décorer tout ça avec des hoppings qui dépendent des orbitales et des énergies de champ cristallin qui dépendent de l'orbital considéré. Alors, pour ceux parmi nous qui trouvent ce modèle théorique encore trop compliqué, eh bien, en général, ce qu'ils s'empressent de faire, c'est de dire, oublions les hoppings directs oxygène-oxygène, considérons que TPD est très petit devant delta, et éliminons les orbitales d'oxygène qui nous ennuient et qui sont pleines de toute façon, pour arriver à un hopping effectif direct, celui dont je viens de parler, de D à D. Et évidemment, on va s'empresser de rajouter là-dessus un terme d'interaction locale, et ça deviendra le modèle de Hubbard. Est-ce correct ? Vas-y, Benoît.
Le rôle du principe de Pauli, parce que si toutes les orbitales P sont remplies, est-ce que ce
rituel
est permis ?
Oui. Alors, on y reviendra plus tard sur Zangerheis et tout ça. Peut-être l'année prochaine seulement, mais on y reviendra. Disons, cette question du passage de ce Hamiltonien qui ne peut pas quand même être trop faux, où on a les oxygènes et les cuivres, allez, disons, plus des interactions, que je n'ai pas encore décrites, au modèle dit à une bande, est un passage délicat qui n'est pas valable dans tous les régimes et qui est encore l'objet de débats houleux, pour ne pas dire haineux, dans la communauté des cuprates. Hein? Donc, ta question est une question pas naïve du tout, évidemment. Bon, alors, clairement, je vais devoir continuer la prochaine fois sur ces oxydes, mais juste pour finir, pour donner un sens, un tant soit peu réaliste, qui ne fasse pas trop rigoler un chimiste du solide, à l'Hamiltonien qui est écrit ici, on peut le faire. On peut le faire de manière réaliste, avec les méthodes modernes de structure électronique. Et pour faire ça, il faut donc construire des orbitales de Vanier, qui vont être la transposition au solide de la notion d'orbital atomique, si vous voulez. Donc ces orbitales de Vanier, c'est des combinaisons linéaires d'orbitales de bloc qui vont être localisées spatialement et on peut imposer un certain caractère, une certaine transformation sous les opérations de symétrie du cristal. Alors on peut faire ça de manière à construire un Hamiltonien effectif du type liaison forte que je viens de montrer à partir des calculs de structure électronique, mais évidemment il faut que vous spécifiez dans quelle fenêtre d'énergie cet Hamiltonien effectif va être... Vous voulez cet Hamiltonien effectif. Alors, par exemple, ici, toujours pour continuer avec strontium VO3, vous avez plusieurs choix, mais vous en avez deux qui sont naturels. Vous pouvez soit vouloir un Hamiltonien effectif qui va être valable dans cette petite fenêtre d'énergie ici, autour de 3 EV autour du niveau de Fermi avec juste les bandes des 2G, ou bien vous pourriez vouloir, donc ça va être le modèle genre Hubbard, si vous voulez, et ou bien vous pourriez vouloir un Hamiltonien effectif qui contienne aussi les oxygènes et puis qui contienne aussi toutes les orbitales EG, parce qu'on ne peut pas garder les oxygènes sans garder les orbitales EG, elles ont un recouvrement trop fort. Donc ça, ce sera un modèle à 3 bandes, si vous voulez, pour ce système. Et puis dans la grande fenêtre d'énergie, ça sera un modèle à 14 bandes. Alors, on peut faire ça, mais vous voyez que les orbitales de Vanier qu'on va construire, qui vont parfaitement décrire ces bandes d'énergie-là, vont être des orbitales de Vanier construites à partir d'une petite fenêtre d'énergie, et donc assez étendues spatialement. C'est juste de la transformée de Fourier. Si j'ai une petite fenêtre d'énergie, j'ai une grande extension spatiale. En revanche, les orbitales qu'on va construire dans ce grand modèle à 14 bandes vont utiliser une fenêtre d'énergie beaucoup plus grande et donc vont être beaucoup plus localisées spatialement et ressembler beaucoup plus à mes orbitales atomiques isolées. Alors, je vous montre le résultat de ce type de calcul. Ce que vous voyez ici, c'est les orbitales de Vanier, c'est un vrai calcul, construites à partir de la petite fenêtre. Et donc, vous voyez que ces orbitales de Vanier, ça, c'est le métal de transition, ça, c'est les oxygènes, elles ont évidemment un fort caractère, par exemple ici, DXY, mais elles bavent fortement sur les oxygènes. Hein, donc, on a construit ici une fonction d'onde qui a la symétrie d'une orbitale DXY, mais qui est un hybride entre les orbitales atomiques DXY de l'atome et les quatre orbitales P, des oxygènes environnants. Et donc, voilà, vous voyez, cette orbitale a un poids assez important ici, mais qui est évidemment plus faible qu'au centre. Alors, en revanche, si vous faites ça pour le grand Hamiltonien, avec les 14 bandes, eh bien, vous fabriquez, vous voyez ici, des orbitales de Vanier qui ressemblent beaucoup, beaucoup aux orbitales atomiques que je dessinais tout à l'heure. Alors, à partir de ça, on peut extraire les recouvrements entre ces orbitales et obtenir une paramétrisation de type liaison forte, donc des intégrales de transfert, un modèle de ce type, hein, mais qui va être parfaitement réaliste, qui va décrire ces bandes de manière essentiellement parfaite. Et il y a des gens qui savent très bien faire ça. Je vous ai mis ça un peu pour vous embêter, mais disons, c'est la table de tous ces sauts entre ces orbitales de Vanier selon différentes directions cristallines dans ce matériau-là, pour juste vous montrer qu'on peut le faire. Bien, alors je prends encore 2 minutes pour vous parler des structures distordues, et puis je vais m'arrêter, je continuerai, j'avais préparé d'autres choses pour aujourd'hui, mais je continuerai ces autres choses la prochaine fois, parce qu'elles sont vraiment importantes. Donc, j'ai parlé de cette perovskite parfaitement cubique, strontium VO3, qu'est-ce qui se passe quand on distord la structure? Donc, quand on réduit le facteur de tolérance, qu'on change le rayon ionique de R, et la structure a cette distorsion orthorhombique dont je parlais tout à l'heure. Alors, il y a une série comme ça qu'on peut étudier. C'est tous des composés qui ont une valence nominale D1, depuis un relativement bon métal jusqu'à un isolant de Mott avec un gap d'environ 1 EV, un peu plus grand qu'un EV, quand on distord la structure progressivement de cette structure à celle-là. Alors, vous ne voyez peut-être pas très bien ici, mais ceci est un calcul de structure électronique, la densité d'état du système, qui est calculée soit dans la vraie structure, c'est le panneau de droite ici, soit dans la structure idéale cubique de même volume. Et donc, vous voyez ici ce qui se passe. Eh bien, tout bouge un petit peu, mais surtout, en fait, il y a 2 phénomènes que vous pouvez voir sur ce graphe. C'est la structure la plus distordue. Ce que vous voyez, c'est que la largeur de bande, ici, du multiple T2G, hein, est clairement beaucoup plus faible, enfin, significativement plus faible, dans le cas de la structure distordue que dans le cas de la structure cubique de référence. Donc il y a une réduction de la largeur de bande, ça c'est ce à quoi vous vous attendez, puisqu'il y a un changement de l'angle oxygène-métal-oxygène. Mais vous voyez également que clairement, le centre de gravité de cette partie de la densité d'état rouge, tout ça c'est la densité d'état T2G, est différent dans le cas de la structure distordue que dans le cas de la structure cubique. Et ça c'est l'effet de la levée de dégénérescence du multiplet T de G lui-même. Hein, donc le multiplet T de G parfaitement dégénéré ici a maintenant une dégénérescence qui est levée. Et ceci n'est pas un petit nombre, c'est un nombre qui, dans cette structure, est de l'ordre de 0,2 à 0,3 électronvolts. Donc c'est quelque chose qui est au moins aussi important que la réduction de largeur de banc. Hein. Donc le message, c'est que quand vous faites cette distorsion, il y a deux phénomènes qui se passent. D'une part, une réduction de la largeur de bande totale, et d'autre part, une levée de dégénérescence qui fait qu'on n'a plus de 3 orbitales T de G équivalentes par site. Et les deux phénomènes sont cruciaux pour comprendre le fait que yttrium TiO3 est un isolant et strontium VO3 est un métal. Ce n'est pas un contrôle par la largeur de bande uniquement. Ça, ce n'est pas vraiment vrai. Bon, alors je vais m'arrêter là. Et évidemment, la prochaine fois, nous parlerons de transition de mode dans les oxydes, donc la suite de ce cours. Et avant de parler de transition de mode, il faudra parler d'interaction. J'espérais vous en parler aujourd'hui, mais je vous expliquerai ce que veut dire U, ou au moins ce qu'on comprend à l'heure actuelle de ce que veut dire U dans un oxyde. Voilà, je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.